Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis de retour pour la suite et on espère la fin de la prédication. Non. Enfin, la parole de Dieu n'est jamais finie, hein, donc vous continuerez chez vous. Juste avant de démarrer, j'ai une pensée qui m'est venue pendant la louange et qui insistait, donc je vous la donne. Je pense que ça doit parler à quelques-uns d'entre nous. Et j'ai vu des chaînes qui roulaient sur des poulies et qui ouvraient comme un pont-levis. Mais en fait, tout de suite, j'ai pensé et je voyais l'image d'un... Vous savez, tous ceux qui ont pris le ferry pour aller en Angleterre, vous voyez ce bruit de chaîne quand on arrive et c'est la porte qui s'ouvre pour que les véhicules puissent sortir du ferry. Et donc on entend ce gros bruit de poulie, comme ça. Et en fait, c'est comme si le Seigneur disait, c'est le temps. Hein. Le temps est venu où je vais ouvrir la porte pour que mon peuple puisse sortir du bateau dans lequel il se trouve et prendre possession du pays. Et bien sûr, j'ai pensé tout de suite à Noé. Et j'imaginais un peu Noé, ce qu'il a vécu dans l'arche. Voilà, il savait qu'il avait entendu Dieu et Dieu l'a mis dans cette arche avec toutes sortes d'animaux, tous les animaux, toutes les espèces d'animaux. Et il savait pas pour combien de temps il serait dedans l'arche. Et il est resté une année complète dans l'arche. Mais l'arche était sa protection. Et au moment, il a passé toute cette année dans l'arche à nourrir les animaux. Et peut-être il avait du stress parce qu'il se disait, ah, la nourriture commence à manquer, comment je vais nourrir tous ces animaux? Mais la terre a séché et Dieu, dans sa grâce, a ouvert les portes, enfin lui a permis d'ouvrir les portes pour sortir de l'arche et entrer dans le pays. Et je sentais qu'il y a peut-être plusieurs d'entre nous qui se sentent comme à l'étroit depuis longtemps dans un bateau ou dans un lieu réduit. Mais dans ce lieu réduit, Dieu te demande d'être fidèle dans les petites choses qu'il t'a confiées. Et de prendre soin, pas des animaux, mais des choses que Dieu t'a confiées. Et de les nourrir pour qu'elles arrivent en vie de l'autre côté de la traversée. Et pour qu'au moment où ça va débarquer, tu pourras sortir avec les choses que Dieu t'a données. Et donc c'est un temps pour nourrir, c'est un temps pour être fidèle dans les petites choses, afin que Dieu puisse te confier les grandes, quand il va ouvrir les portes et quand il va te faire entrer dans la plénitude de l'héritage qu'il a prévu pour toi. Amen. Voilà, Seigneur, je veux juste prier pour ça, et je prie un esprit d'encouragement maintenant, pour tous ceux qui se sentent à l'étroit, tous ceux qui se sentent inutiles peut-être dans ce qu'ils font, juste des petites choses que personne ne voit parce qu'ils sont cachés. Mais c'est là que tu es présent, Seigneur. Et merci pour cette persévérance à nourrir ce qui est de toi dans nos cœurs. Jusqu'à ce que le temps vienne et nous pourrons sortir parce que nous aurons gardé vivant tout ce que tu as déposé dans nos cœurs et nous aurons nourri tout ce que tu as déposé dans nos cœurs afin que cela vive au moment de sortir et de prendre possession de l'héritage. Et donc, Seigneur, que nous ne soyons pas découragés, que nous ne craignions pas de manquer de force et de nourriture, parce que tu sais, parce que tu as prévu les temps, et parce que tu vas ouvrir les portes au temps favorable, et nous sortirons en victoire avec tout ce que tu nous as donné. Merci, Seigneur. Et je pense qu'il y a des hommes et des femmes dans ce que tu nous as donné, et que tu nous donnes de nourrir par notre prière, de nourrir par notre compassion, et nous sortirons avec eux aussi, dans ton héritage. Amen. Voilà, vous vous rappelez un petit peu de ce dont on avait parlé la dernière fois? Oui? Voilà. Oui, justement, alors Rémi a repris ce passage, hein, voilà, « Cherchez, vous trouverez ». Et donc, c'était Dieu qui nous appelle à retrouver ce qui était perdu. Hein. Et donc, on avait vu l'histoire de la femme qui cherche la pièce. Et ça nous parlait de ce collier, de l'épouse. Et ça nous parlait de ne pas oublier. Parce que souvent, celui qui cherche pas, c'est parce qu'il a oublié. De ne pas oublier la promesse de Dieu de son retour pour chercher son épouse. Et il y avait aussi le fait de ne pas oublier son identité. Vous savez, avec tous ces Lévites qui avaient perdu leur généalogie, et ils étaient barrés de... Ils ne pouvaient pas exercer leur ministère jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé. Et jusqu'à ce qu'on ait consulté Dieu et que Dieu dise, voilà, ils sont effectivement Lévites, et voilà quelle est leur identité, leur travail, et qu'ils puissent entrer à nouveau dans l'œuvre de Dieu. Et la troisième chose, donc, c'était tout ce qui touche la parole. Qui a lu le passage qu'on avait donné là? Levez les mains. Non, ouais, c'est pas un bon début ça. Voilà, vous vous rappelez, j'avais donné le passage de 2 Rois 22 et 2 Rois 23. Et donc, bon, mais on va le lire alors. Hein. Pour accentuer votre culpabilité. Mais pour nous libérer aussi de la culpabilité. Alors, 2 Rois 22, on va pas tout lire, bien sûr. Hein. On va lire peut-être les 13 premiers versets de 2 Rois 22. Je pensais que j'aurais une foule qui avait déjà tout lu, donc on n'aurait pas eu besoin de lire. Vous allez étudier tout ça. Alors, 2 Rois 22. Josias avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yedida. Elle était fille d'Adaïa et de Botsak. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit en tout l'exemple de son ancêtre David, sans jamais s'en écarter, ni d'un côté, ni de l'autre. La 18e année de son règne, Josias envoya son secrétaire Shaphan, fils d'Altsalia et petit-fils de Meshulan, au temple de l'Éternel. Il lui dit, « Va trouver le grand prêtre Hilkia et demande-lui de compter tout l'argent qui a été apporté dans le temple de l'Éternel et que les portiers ont recueilli, que l'on remette cet argent aux entrepreneurs qui ont la responsabilité des travaux dans le temple de l'Éternel. Ceux-ci paieront les ouvriers qui effectuent les réparations dans le temple. Les charpentiers, les ouvriers du bâtiment, les maçons, ils achèteront aussi le bois et les pierres de taille pour consolider l'édifice. » On ne leur demandera pas de compte pour l'argent qui leur est confié, car ce sont des gens honnêtes. À cette occasion, le grand prêtre Hilkia annonça à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple de l'Éternel. » Et Hilkia remit le livre à Shaphan. Celui-ci le lut, puis il se rendit auprès du roi pour lui faire un rapport. « Tes serviteurs, dit-il, ont versé l'argent qui se trouvait dans le temple aux entrepreneurs responsables des travaux dans le temple. » Puis il ajouta, « Le prêtre Hilkia m'a remis un livre, et Shaphan se mit à en faire la lecture devant le roi. » Lorsque Josias entendit le contenu du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Puis il convoqua le prêtre Hilkia, Akiam, fils de Shaphan, Akbor, fils de Miché, Shaphan, le secrétaire, et Asaïa, l'un des ministres. « Allez consulter l'Éternel pour moi, leur dit-il. » ainsi que pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des enseignements de ce livre que l'on vient de trouver. Car la colère de l'Éternel est bien grande. Elle s'est enflammée contre nous tous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas appliqué tout ce qui y est écrit. Amen. Donc j'avais dit hein, ça la dernière fois, vous vous rappelez, supposez que la personne qui fait le ménage là dans l'église, par hasard, elle retrouve hop un livre là sur en haut de l'étagère, et puis elle voit Bible, et puis elle va voir Rémi, elle lui dit oh j'ai trouvé quelque chose de bizarre là, il y a marqué Bible dessus, hein, Rémi qu'on commence à lire et dit ah oui c'est bien intéressant et il dit vous imaginez le peuple de Dieu Israël avait mis en oubli le livre de la loi. Et on va se dire oh peut-être c'était récent hein, peut-être ça datait de la génération de Josias. Mais en fait, si on regarde l'histoire de la Bible, ça date pas de la génération de Josias. Alors, je vais pas le lire parce que ça va prendre du temps, mais vous pourrez voir dans Deutéronome 17, très intéressant, Dieu donne des directives. Et il dit, au travers de Moïse, il donne des directives. Donc ça, c'est le livre de la loi, la Torah. Hein. Au moins déjà le Pentateuque, il y avait les cinq livres qui étaient déjà là. Et il dit, si le peuple veut se donner un roi, ils choisiront celui que l'Éternel leur montrera. Et après, il dit, mais il faut surtout pas que le roi aille acheter des retourne en Égypte pour acheter des chevaux, un grand nombre de chevaux. Il ne faut pas qu'il ait un grand nombre de femmes, parce que ça sera une occasion de chute pour lui. Et il ne faut pas qu'il amasse beaucoup d'argent et d'or pour que son cœur ne s'élève pas. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un, ça? Est-ce qu'il y a un roi qui n'a pas vraiment fait suivi ces conseils-là? Oui, peut-être. Mais un grand nombre de femmes? C'est, tu dis? Salomon, oui. Donc imaginez, du temps de Salomon déjà, parce qu'il dit, et tu liras, le roi, il faudra qu'il lise chaque jour cette loi. C'est ça qu'il dit à la fin de Deutéronome 17. Et chaque jour, le roi lira dans ce livre. Mais c'est incroyable. Il a dit, et Salomon, c'est les trois choses qu'il a faites. Beaucoup d'argent et d'or, il est allé acheter des chevaux en Égypte, et il a pris beaucoup de femmes. Et on sait que ça a été une occasion de chute pour lui. Donc déjà, du temps de Salomon, le roi ne lisait plus régulièrement, ou alors il était vraiment aveugle s'il le lisait, parce qu'il y avait tous les détails. Et il lisait plus déjà. Donc c'est des générations comme ça qui sont passées au point même que pof, on a oublié quelque part le livre de la loi dans le temple et plus personne n'était passé depuis très longtemps et quelqu'un trouve ça. Donc imaginez cet oubli là. Et Josué avait dit, vous lirez, tu liras le livre de la loi et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alors j'ai une question, et nous, qu'est-ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous lisons et méditons régulièrement la parole de Dieu? À ce moment-là, nous aurons du succès dans nos entreprises. À ce moment-là, nous serons de la sagesse dans nos décisions. À ce moment-là, nous aurons de la vérité dans nos paroles. Et à ce moment-là, nous aurons de la justice dans nos actions. Et comme il l'a dit à Josué, prends courage. Mais il dit prends courage après lui avoir dit de lire la parole. Nous aurons du courage et de la persévérance dans notre marche avec Dieu, jour après jour. Alors c'est intéressant de voir les conséquences de la découverte du livre de la loi sur le roi. Tout de suite, il déchire ses vêtements. C'est pas qu'il n'aimait pas son costume, c'est pas parce que c'était abîmé, mais c'était un signe de repentance en Israël. Tu déchirais tes vêtements en signe d'humiliation et de repentance. Et donc, pourquoi il fait ça? Parce que la parole, elle est comme un miroir. Et dans ce miroir, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens ici, quand tu quittes chez toi, est-ce que tu quittes sans t'être regardé dans le miroir? Je ne dis pas t'être admiré dans le miroir, mais vérifier si tu as bien coiffé, si tu n'as pas une grosse tache sur ta veste ou sur quelque chose qui pend sur ta figure, le petit déjeuner là qui est encore là. Bon, voilà, je pense que c'est rare qu'on sorte sans juste une petite vérification dans le miroir. Mais Dieu a mis un miroir devant nous, et c'est la parole. Et dans ce miroir, tu te vois tel que tu es, mais tu vois Dieu aussi tel qu'il est. C'est comme si Dieu qui est derrière toi, qui te garde, quand tu le vois pas, mais quand tu regardes dans le miroir, tu le découvres. Il est là, à tes côtés, et il veille sur toi, et tu vois sa grâce, sa protection, et tu vois aussi son caractère. Mais tu te vois aussi dans le reflet de ce miroir, et ça te permet de voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je dois arranger avant de sortir dans ce monde et de marcher avec Dieu dans mon quotidien. Donc un miroir. Et le roi, en lisant la parole, il réalise son péché et le péché du peuple. Et il réalise qu'il y a la colère de Dieu qui est là. Alors pour ceux qui étaient là hier, le frère Étienne, il nous a parlé de Dieu qui est lent à la colère. Voilà, il est lent à la colère, c'est-à-dire qu'il allonge le temps jusqu'à sa colère. Mais en fait, son désir, c'est de nous amener dans la repentance et dans le pardon, pour que la colère soit apaisée et que nous soyons libérés. Mais c'est intéressant de voir la réaction du roi. Il a une repentance juste en lisant la parole de Dieu, et il accepte la colère de Dieu. Ça me parle pour notre repentance. Est-ce que quand je lis la parole de Dieu, j'ai juste une petite gêne, et puis j'oublie, ou est-ce que j'ai une conviction de péché et j'accepte les conséquences du péché, et j'accepte la colère de Dieu. Souvent, notre repentance s'arrête en chemin, et nous ne comprenons pas que la relation avec Dieu soit coupée. « Oh Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas ?» Et peut-être Dieu te dit « Si, je te parle par ma parole, et je t'amène à revenir vers moi. » Et si tu veux que Dieu te parle plus, eh bien, commence par la parole. Regardez ce que fait Josias. Il lit la parole, il réalise son péché et celui du peuple, il accepte, il dit voilà, Dieu est en colère contre nous, mais après ça, il va consulter l'Éternel, ou il envoie ses serviteurs consulter l'Éternel, à travers une prophétesse d'ailleurs, et vous voyez, il y a une première consultation de la parole écrite, et ensuite il y a la deuxième consultation. La parole écrite va toujours ouvrir nos cœurs à la parole prophétique de Dieu. Mais très souvent nous voulons entendre Dieu, mais nous ne commençons pas à écouter ce que Dieu dit dans sa parole. La parole de Dieu est le passage, sinon obligé en tout cas, qui crée et qui ouvre la porte pour que Dieu nous parle. J'entends très souvent des chrétiens qui disent « Ah, mais toi, Dieu te parle, oui, il parle au pasteur, mais moi, il ne me parle pas. » Mais je serais étonné que si tu lis la parole régulièrement, Dieu ne te parle pas. Déjà, il va te parler par sa parole, donc alléluia. Et ensuite, ça va ouvrir ton oreille spirituelle, parce que quand tu connais qui est Dieu, quand tu apprends à connaître qui est Dieu et qui tu es, alors Dieu a des portes ouvertes dans ton cœur pour te parler. Donc la parole est la première porte que Dieu ouvre dans ton cœur pour pouvoir te parler de façon plus spécifique aussi. Donc, Amen. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? On va voir ça dans... Je ne sais pas si je l'ai... Non, je ne l'ai pas lu. Voilà, dans le verset 13. Dans le verset 13. Non, 13 et suivant. Ah oui, alors 13. Donc, allez consulter l'Éternel. Donc ça, on l'a lu. Le verset 16. L'Éternel dit, après la consultation, « Je vais faire venir un malheur sur cette contrée et sur ses habitants. Tout ce qui est prévu dans le livre que vient de lire le roi de Juda. » Donc vous voyez la colère de Dieu. Mais un peu plus loin, au verset 19 et 20, il dit, ton cœur, il parle à Josias, hein, ton cœur s'est laissé toucher, tu t'es humilié devant moi en entendant ce que j'ai décrété contre ce lieu et contre ses habitants, à savoir la dévastation et la malédiction. Tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. De mon côté, moi aussi, j'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. L'Éternel le déclare, c'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres décédés et tu seras déposé paisiblement dans l'un de tes tombeaux sans avoir vu tout le malheur que je vais amener sur cette contrée. Les envoyés rapportèrent cette réponse au roi. Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Il dit pas, oh ben toi Josias, c'est tellement bien, je vais te bénir, puis les autres, non. Non, c'est pas ça, il dit qu'il repousse sa colère, il repousse son jugement. Ça ne viendra pas dans la génération de Josias. Et donc il donne un surcroît de temps. Vous voyez, par la parole, par la repentance et par la consultation de Dieu, il y a Dieu allonge le temps de sa colère et il ouvre une porte d'opportunité et une porte de pardon et une porte de salut pour le peuple. Et puis il y a des actes qui sont posés. Oui, un exemple. Hein. Rappelez-vous de ce qui se passe à Ninive. Vous savez, avec Jonas, le prophète qui est envoyé, et puis Ninive était un peuple terrible, hein, c'est un peuple qui opprimait Israël, c'était un peuple très cruel. On a retrouvé des fresques et des sculptures, on voit comment les horreurs que faisait le peuple de Ninive. Et donc Jonas, il voulait pas même que ce peuple se repente, mais parce que le peuple de Ninive se repent, le roi et toute la population, Dieu va donner un surcroît de 200 ans. Ninive va exister 200 années de plus, mais comme ils vont retomber dans leurs péchés, dans leurs horreurs, ils seront détruits. Ninive sera détruite, mais 200 ans après. Imaginez la grâce de Dieu. Combien de générations ont pu survivre et continuer parce que Dieu a fait grâce. Mais tout ça par la parole de Dieu. Et donc, on va lire au verset, au chapitre 23. La repentance entraîne des actes, des actions dignes de la repentance. C'est ça qui est important. Une vraie repentance entraîne toujours des actions dignes de la repentance. Alors, pour Josias, c'est quoi ? Donc, 2 Rois 23, verset 3. Le roi se tenait sur une estrade. Il conclut devant l'Éternel une alliance par laquelle il s'engagea à être fidèle à l'Éternel et à obéir à ses commandements, à ses lois, à ses ordonnances, de tout son cœur, de tout son être, et à respecter toutes les clauses de l'alliance figurant dans ce livre. De son côté, tout le peuple adhéra à cette alliance. On va lire jusqu'à verset 5. Ensuite, le roi ordonna au grand prêtre Hilkia, aux prêtres adjoints et aux prêtres qui surveillaient l'entrée du temple de jeter hors du sanctuaire de l'Éternel tous les objets qu'on avait fabriqués pour le culte de Baal, d'Achérah et des astres du ciel. Ils furent brûlés à l'extérieur de Jérusalem dans les champs de la vallée du Cédron et l'on transporta leurs cendres à Bethel. Le roi destitua les prêtres idolâtres institués par les rois de Juda pour brûler l'encens sur les hauts lieux dans les villes de Juda et près de Jérusalem. Il supprima aussi ceux qui offraient les parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux étoiles et à tous les astres. Bon, il y a toute une description et ça va être vraiment quelque chose de radical. Donc, première chose, il renouvelle l'alliance. Il renouvelle l'alliance avec Dieu et avec le peuple. Et il y fait entrer le peuple. La parole a une puissance et elle est une clé pour rétablir la relation avec Dieu. La relation avec Dieu était cassée parce que le peuple avait oublié la parole de Dieu. Elle est rétablie et Josias fait entrer à nouveau dans l'alliance de grâce et de faveur que Dieu avait déclarée sur le peuple. Donc la parole, c'est par là que tu es réconcilié avec Dieu et que la relation avec Dieu est rétablie. Elle, donc bien sûr, c'est le sacrifice de Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu, mais est-ce que nous acceptons le sacrifice de Jésus dans nos vies ? Est-ce qu'on accepte ? Vous acceptez le sacrifice de Jésus dans nos vies ? Oui, j'espère. Hein. Ouais, je ne sens pas une réponse enthousiaste là, mais... est-ce que vous acceptez le sacrifice de Jésus dans vos vies ? Ah bon. Est-ce que vous acceptez la personne de Jésus dans vos vies ? Oui. Quel est un autre nom de la personne de Jésus ? Un autre nom de Jésus ? Le Seigneur, oui. Oui. La parole de Dieu, peut-être. Jésus est la parole de Dieu. Si nous acceptons le sacrifice de Jésus, si nous acceptons la personne de Jésus... dans nos vies, est-ce que nous acceptons la parole de Dieu dans nos vies? Oui. Donc, la parole de Dieu est ce que nous devons cultiver dans nos vies. C'est parce que ça, c'est la proximité de Jésus jour après jour. Imaginez que la porte s'ouvre là, et Jésus entre. Waouh, on est tous là surpris. Oh, mais tout le monde va être content. Et Jésus vient s'asseoir là. Oh, on va dire, ah, il s'assoit. Bon, il n'est pas assis. Il vient à côté de Rémi là. On va dire, oh Rémi, t'as de la chance là, mais pourquoi il a choisi Rémi là? Tout le monde aura envie d'être à côté de Jésus là, on va tous l'entourer. Jésus est la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir chaque matin à côté de lui. T'as pas besoin qu'il entre par la porte, parce qu'il est déjà dans ton cœur. Et sa parole et sa présence, elle t'est offerte chaque jour. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Et donc, il renouvelle l'alliance, c'est-à-dire à être fidèle à Dieu. Là, c'est écrit, fidèle à Dieu, à obéir à ses commandements. Et finalement, rappelez-vous ce que Dieu dit à Israël. Tu auras un seul Dieu devant ta face et tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, c'est Maggie perturbe la réunion. Là. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire aimer de tout son cœur? Vous savez, on a tellement dilué le mot amour que tout le monde va dire oui, moi j'aime Jésus de tout mon cœur et on va chanter. Mais aimer Dieu de tout son cœur, c'est aimer sa parole puisqu'il est la parole de Dieu et c'est s'engager à être fidèle et à suivre ses commandements. C'est ça, aimer Dieu. C'est là qu'on prouve notre amour. Hein, je ne sais pas si, supposons que voilà, vous dites, oh, j'aime ma femme, j'aime vraiment ma femme. Vous faites tout ce qu'elle n'aime pas et tout ce qui n'est pas sa volonté. Vous dites, mais j'aime tellement ma femme. Oh oui, mais je pense, je ne sais pas si ça va être réciproque, hein, parce que elle va dire, ah, mais tu as une drôle de façon de me montrer ton amour là. Bon, c'est valable dans l'autre sens, hein, aussi pour les aimer vos maris. Hein. Voilà, l'amour se prouve par un engagement de fidélité et d'avoir de la joie à faire la volonté de l'autre. Bon, la volonté de Dieu d'abord, mais de faire plaisir à l'autre en venant répondre à ses désirs qui sont justes. Alors, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit toutes les idoles. Hein. Bon, et puis, alors, vous voyez, c'est radical. Hein. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire ça dans vos vies, mais il tue les prêtres, les faux prêtres. Donc, on n'a pas besoin d'aller tuer les gens qui pratiquent l'occultisme, ce n'est pas ça. Par contre, il y a un esprit qui doit être attaqué, qui doit être éradiqué et qui doit être tué. Et Dieu nous engage à prier pour ça. Mais finalement, c'est la parole qui lui fait faire ça. Parce que la parole, elle révèle les idoles qui étaient cachées en Israël. À partir du moment où il voit comment Dieu veut être adoré, il voit les idoles. Il dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des idoles partout, on a construit des hauts lieux. Même jusque dans le temple, ils avaient mis les idoles de Baal, d'Asherah, la déesse de la fertilité, etc. La parole de Dieu, elle va révéler les idoles qui sont dans nos cœurs. Elle va révéler les idoles qui sont dans ton cœur. Et ça ne prend pas beaucoup de place, ces idoles-là. On ne les voit pas, des fois. Personne ne les voit à l'extérieur, ou elles ne sont pas évidentes. Mais la parole de Dieu, elle met en lumière les idoles de nos cœurs. C'est-à-dire tout ce qui prend la place de Jésus dans nos vies. C'est-à-dire tout ce qui gouverne nos vies. Et vous savez, une façon de voir ce qui gouverne ta vie, c'est de voir le temps que tu y consacres et de voir qu'est-ce qui, dans tes désirs, prend la place des désirs de Dieu. Ça, c'est une bonne façon de voir quelles sont les idoles qui sont dans nos cœurs. Et donc la parole, parce qu'elle est miroir de la personnalité de Dieu et de la personnalité de celui qui se regarde, elle révèle les idoles dans nos cœurs. Et à partir du moment où les idoles sont révélées, qu'est-ce qu'il fait? Il les rejette, il les jette, il les détruit, et il les réduit en poudre, et il les brûle, et il tue les hauts prêtres, etc. Et donc tout ça, ça nous parle de la parole qui non seulement révèle les idoles, mais elle nous donne d'apprendre à les haïr. Hein, voilà. Dieu est un Dieu d'amour, mais il haït le péché. Et quand nous nous approchons de Dieu, Dieu nous donne cette même haine pour le péché. Pas pour le péché du monde seulement, mais pour le péché dans nos vies. Et plus nous sommes proches de Jésus, et plus ce dégoût du péché vient dans nos vies. Mais c'est la parole qui va alimenter ce dégoût du péché et cet désir d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, la parole nous pousse à haïr et rejeter les idoles qui sont dans notre cœur, et elle nous donne aussi la force de rejeter et détruire les idoles dans nos cœurs. Vous savez, moi je crois beaucoup à la prière pour la délivrance des personnes qui ont des zones de leur vie qui doivent être purifiées. Je crois beaucoup à la relation d'aide aussi. Mais, en dernier lieu, c'est la parole qui va... Vous savez, il y a cette parabole que Jésus donne. Il dit que voilà, il y avait un... c'est comme un homme en qui il y avait un démon, on chasse le démon, et puis comme le démon, il a été... Non, dans une maison, pardon. Il parle d'une maison, et puis... Ah, comme le démon, il habite plus la maison, il va aller chercher 7 démons plus méchants que lui, et il revient, il reprend possession de la maison parce qu'elle a juste été ornée. Elle a juste été ornée, mais il n'y a pas eu ni le Saint-Esprit, ni la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. C'est ce qui donne de la puissance au Saint-Esprit d'agir. Hein, souvent on veut, oh, Saint-Esprit vient, etc. Mais la parole est l'épée de l'Esprit. Ça veut dire que c'est ça qui donne la puissance pour trancher. C'est ça qui donne la courage et la force pour extirper ce qui doit être extirpé et pour faire un chemin à Dieu pour régner. Qu'est-ce qui gouverne nos vies? Et enfin, on ne va pas le lire, mais il célèbre la Pâque, la plus grande Pâque qui ait jamais été célébrée. Vous voyez, ça veut dire que la plus grande Pâque qui ait jamais été célébrée depuis tous les rois, depuis David. Donc ça veut dire qu'il y a un retour, il y a un retour à Dieu. La parole crée ce retour et la parole recentre sur le sacrifice de Jésus. Bon, je sais bien qu'à l'époque, Jésus n'était pas encore venu en chair, mais symboliquement, c'était ça. Et pour nous, c'est ça. La parole nous recentre sur le sacrifice de Jésus. Sur la conviction de péché, sur la conviction de la nécessité du pardon et le désir d'être pardonné, et sur la réception de la grâce du pardon. La réception de la grâce du pardon dans l'humilité et dans la reconnaissance. Je vais peut-être passer là-dessus, j'avais un point là, mais je voudrais juste vous laisser trois bénédictions de la parole, pour faire plus vite. Voilà, trois bénédictions de la parole. Jean 8, et on va finir là-dessus. Jean 8, Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Vous serez vraiment mes disciples. Ça veut dire que peut-être on peut être pas vraiment ses disciples, ou des disciples mais pas vraiment disciples. Donc Dieu veut des vrais disciples et des hommes libres. Vous savez, il y a un philosophe, Hegel, qui a dit « L'esclave perd tout dans ses chaînes, y compris le désir d'en sortir. » L'esclave perd tout dans ses chaînes, y compris le désir d'en sortir. Et ça, c'est une telle réalité que quand nous sommes dans l'esclavage, on ne se rend même plus compte qu'on est dans l'esclavage. On n'a pas la force de sortir. Mais la parole est ce qui ouvre nos yeux sur les esclavages dans lesquels nous nous trouvons et qui nous donne le désir d'en sortir. Des hommes libres. Vous savez, je vais vous dire quelque chose sur mon ascendance. Par ma mère, j'ai une racine martiniquaise. Alors je sais que ça ne se voit pas beaucoup sur moi, surtout quand je suis assis à côté de Maggie. On ne voit pas ça beaucoup. Mais en fait, j'ai une tante, ça se voit beaucoup plus sur elle. Dès que Maggie l'a vue, elle a dit « Oh, mais elle est africaine, cette tante-là » Moi, tu sais, quand tu grandis avec quelqu'un, tu ne te rends pas compte. Pour nous, c'était notre tante. Mais c'est vrai qu'après qu'elle a dit ça, je disais « Ah oui, c'est vrai, elle a des côtés africains. » Et cette tante, elle est repartie en Martinique pour la première fois parce que notre grand-père avait quitté là-bas, il n'avait plus revu sa famille ensuite. Au début du XXe siècle, on prenait le bateau et c'était trop cher pour... Il est parti faire ses études en France. Et donc, elle est retournée là-bas et elle a fait des recherches généalogiques. Et en faisant ces recherches généalogiques, elle a trouvé que notre arrière-grand-mère, c'était une esclave affranchie. Vous savez, l'esclavage avait été rétabli sous Napoléon et je crois que, si je ne me trompe pas, c'est en 1830 ou alors 1848 que ça a été à nouveau aboli. Et donc, elle était esclave affranchie. C'était une noire esclave affranchie. Et après, il y a eu un Canadien qui l'a épousée. Et puis après, il y a eu un Portugais qui est rentré dans la famille aussi. Et donc, on est toute une famille de métis et de carterons, comme on dit, c'est-à-dire métis, mariés avec des métis. Et voilà, c'est de là que je viens. Mais quand je préparais ça, le Seigneur m'a dit, mais imagine cette femme qui sait ce qu'était l'esclavage quand elle a été affranchie. Elle a vu l'importance de ça. Et il devait y avoir un arrêté, un décret. Peut-être au début, il y avait même une attestation comme quoi elle avait été affranchie. Et je ne pense pas qu'elle aurait perdu cette attestation. Et je ne pense pas qu'elle allait oublier ce droit-là, qu'elle est libre. Et je pense qu'elle se réjouissait chaque jour d'être libre. Est-ce que nous nous réjouissons chaque jour d'être libres en Christ? Et est-ce que nous nourrissons cette liberté en Christ par la parole de Dieu qui nous a franchis? C'est quand on oublie ce que Jésus a fait pour nous, c'est quand on oublie d'alimenter par la parole ce que Jésus a fait pour nous, que que l'on retombe progressivement en esclavage. Mais Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes libres. Deuxième point, au commencement était la parole de Dieu, Jean 1. Et la parole dans Genèse, Dieu parle, donc ça veut dire que la parole de Dieu, elle était déjà là. Jésus était à côté de Dieu le Père quand il a créé la terre, et d'ailleurs il y a un psaume qui nous confirme ça. Donc quand Dieu parle et il dit que la lumière soit, c'est Jésus, la parole de Dieu qui parle. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et il y avait les ténèbres sur la terre, il y avait le tohu-bohu, c'est-à-dire le chaos. Et d'un seul coup, tout s'est ordonnancé. Et il y eut un matin et il y eut un soir. Et Dieu créa la séparation entre la lumière et les ténèbres. Et donc la parole est créatrice, la parole de Dieu est créatrice. Elle fait descendre la volonté de Dieu du ciel sur la terre. Ça veut dire que tu as un outil puissant, nous avons un outil puissant avec la parole de Dieu. Et quand nous la prions, elle a une puissance pour créer les choses qui n'existaient pas, pour amener à l'existence les choses que Dieu a décrétées au ciel, afin qu'elles viennent sur la terre et qu'elles viennent agir et transformer nos vies. La puissance de la parole créatrice de Dieu. Et elle sépare les ténèbres et la lumière. Ça veut dire qu'elle nous protège, elle nous fait entrer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, comme dit Paul, et elle nous protège des ténèbres. Et donc c'est le troisième point, la parole est puissante pour résister au royaume des ténèbres, elle est puissante pour résister au diable. Et d'ailleurs, vous pourrez lire dans Luc 4, donc là je reprends quelques passages que j'avais donnés hier, mais dans Luc 4, Jésus, quand il est tenté par le diable, c'est par la parole de Dieu qu'il repousse le diable et qu'il triomphe du diable. La parole de Dieu est une puissance, elle est lumière, et les ténèbres ne peuvent pas tenir dans la lumière. Elles sont chassées. Même une petite lumière suffit à chasser beaucoup de ténèbres. Et donc, la parole de Dieu est ce qui va te donner la capacité de résister à ta chair et de résister au diable. Et si tu n'as pas la parole, par quoi tu vas remplacer la parole ? Tu vas la remplacer par tes opinions, tu vas les remplacer par les idéologies de ce monde. Et les opinions de l'homme, vous savez, on dit que une opinion, on peut en changer, on en change, on change d'opinion, mais une conviction, elle nous change. La conviction te change. Et la conviction, elle te change pour le bien si c'est une conviction de Dieu, alimentée par sa parole, qui grandit en toi. Elle a cette puissance pour te transformer et pour faire de toi un vrai disciple et un vrai enfant, fille et enfant de Dieu. Fils de Dieu, c'est ça que je voulais dire. Voilà, et donc, tandis que nos opinions et nos idéologies, elles sont une proie facile pour les séductions de Satan. Nos opinions et nos idéologies ne vont pas tenir. Regarde le monde qui est dans ces idéologies où ils disent « Oh, ça c'est tellement fort, tellement grand comme idéologie, voilà, nous avons telle idéologie, l'humanisme, etc. » Mais dès que les tentations viennent, dès que le monde est ébranlé, regardez ce que fait ces idéologies. La démocratie, notre idéologie, la démocratie. Ah, c'est fantastique ça. Mais regardez combien ça recule dès que les choses deviennent difficiles. Bon, l'homme, il est prêt à reculer sur ses soi-disant convictions, parce qu'elles ne sont que des idéologies, elles ne peuvent pas avoir la puissance de résister aux séductions et aux tentations du diable. Mais la parole de Dieu, qui est lumière et qui repousse les ténèbres, est une puissance dans nos vies et dans ce monde pour résister au diable. Amen. Voilà, on va prier. Alléluia. Oui, Seigneur, merci pour ta parole qui est la plus petite des graines, la graine de Sénévé, mais quand elle est plantée, elle devient un grand arbre. Et tu dis que beaucoup d'oiseaux viennent se réfugier dans son feuillage. Seigneur, je prie cette graine dans nos vies. Je prie que nous l'arrosions, que nous la cultivions, que nous la semions dans tous les domaines de nos vies et qu'elle devienne ce grand arbre où il y a de l'ombre contre la chaleur du jour, contre les difficultés, contre les épreuves. Je prie qu'elle devienne ce grand arbre où plusieurs vont venir se réfugier parce qu'ils vont voir qu'il y fait bon. Ils vont voir qu'il y a de la protection. Ils vont voir qu'il y a de la grâce et de la faveur de Dieu sur nos vies. Seigneur, merci pour cette parole, toi, Jésus-Christ, la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir à tes côtés chaque jour en lisant ta parole. Et tu nous parles et tu nous conseilles. Oh Seigneur, nous voulons voir et nous voulons entendre les paroles de Dieu sur nos vies. Mais Seigneur, commençons par saisir celle que tu nous as déjà donnée. Comme tu dis, elle n'est pas au ciel pour dire « qui ira me la chercher ?» La parole de Dieu est près de toi, dans ton cœur. Seigneur, aide-nous à la cultiver dans nos cœurs, afin que ta volonté puisse se former et nous transformer. Je prie, Seigneur, que tu viennes nous encourager, et je prie que tu viennes nous fortifier. Et Seigneur, que ceux qui, à chaque fois que nous avons des difficultés dans nos vies, Seigneur, que nous venions dans ta parole pour y trouver les semences et les clés qui vont transformer nos vies et nous arracher à ces épreuves et nous rendre victorieux par ta grâce pour voir tes promesses et tes desseins s'accomplir dans nos vies. Merci Seigneur de le faire en chacun de nous. Merci de renouveler la soif de ta parole et merci de nous fortifier dans ces temps difficiles, de nous fortifier Seigneur. Voilà, il y a un combat pour saisir ta parole. Seigneur, je prie vraiment que l'épée de la parole de Dieu qui tranche et qui coupe vienne couper tout ce qui nous retient en arrière, Seigneur, de lire ta parole, tout ce qui nous divertit, tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous retient, toutes les pensées et toutes les forces qui viennent nous anesthésier pour ne pas lire ta parole. Seigneur, viens libérer maintenant par l'épée de ton esprit qui est la parole de Dieu et viens nous rendre des amoureux de ta parole, des amoureux de Jésus, des hommes et des femmes qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur pensée. Au nom de Jésus. Amen.